Au sommaire aujourd'hui des enjeux, les élections en Indonésie.
C'est ça, élection générale et l'actuel président Joko Widodo et son parti sortiraient donc vainqueurs de ces scrutins qui rééditent finalement le match de 2014 qui l'oppose à l'ancien général Prabowo Subianto. Ce serait donc la victoire encore une fois de la nouvelle garde contre le camp conservateur, sauf que 5 ans après, eh bien c'est le facteur islamique qui s'est imposé dans la campagne, un islamisme conservateur qui pourrait peut-être peser sur l'avenir du plus grand pays musulman au monde. Et on voit ça avec vous, Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, co-auteur récemment de La Chine et le monde chez Odile Jacob. Alors là, les résultats définitifs de ces élections indonésiennes ne seront donnés qu'en mai par la commission électorale. On parle donc de résultats non officiels, mais d'où qu'on les prenne, en fait, que ce soit 55% contre 43% ou 54% contre 45%, les électeurs semblent avoir confirmé le président Widodo pour un nouveau mandat.
Exactement. Et c'est un résultat qui est apparemment meilleur que celui de 2014 où le même match, c'est-à-dire Jokowi contre Prabowo, se tenait. Donc, il semblerait que le choix de société porté par les citoyens indonésiens soit clair et qu'ils veulent une modernité laïque telle que la défend Jokowi.
Oui, juste un mot sur la contestation donc quasiment immédiate hein, du camp Subianto hier soir. Il disait qu'il avait, Prabowo Subianto, effectué son comptage réel, je le cite, dans 320 bureaux de vote, il revendique 70%. Là encore, c'est comme en 2014 où il y a une petite chance que ce soit réel, cette contestation.
Écoutez, il semblerait quand même que ce soit une posture, hein, c'est-à-dire comme en 2014. Il semblerait que le scrutin ait été mené sérieusement. Il y a, vu la taille de l'archipel indonésien, des risques évidemment, mais néanmoins, l'administration a pris ces élections très au sérieux. Ce ne sont pas seulement d'ailleurs des élections présidentielles, mais également législatives. Donc la posture de Subianto Prabowo n'a pas véritablement évolué depuis 2014 et évidemment c'est de bonne guerre qu'il accuse son concurrent de triche.
Et vous l'avez précisé, pour la première fois ensemble, donc les élections présidentielles, législatives et puis un certain nombre de mandats locaux, ça fait 245 000 mandats en tout. C'est ça qui fait qu'on aurait une participation, là encore non officielle, à 80%, la plus haute jamais estimée, ou alors le fait qu'il y ait eu une campagne de recrutement assez extraordinaire et haute en couleur, hein, avec des bureaux aux couleurs des super-héros, sur des thématiques d'horreur, voilà, pour séduire les millennials, disait-il.
Oui, alors le vote n'est pas obligatoire en Indonésie, hein, donc il fallait inciter, je dirais, les électeurs à passer par les urnes, et certains, effectivement, n'ont pas hésité à recourir à quelques subterfuges, comme par exemple des campagnes ou des bureaux de vote où les éléphants amenaient les bulletins. Non, très sérieusement, c'est un enjeu incroyable que ces élections. On est dans un archipel où il y a plus de 13 000 îles. Il faut aller parfois dans des coins très reculés. En Papouasie, d'ailleurs, les bulletins sont arrivés tardivement. Donc, c'était véritablement un enjeu logistique majeur. Et puis, également, un enjeu de communication. Les candidats ne pouvant se présenter dans toutes les îles. Donc, il y a eu, effectivement, l'usage de la télévision, l'usage de la 3D, l'usage des médias sociaux qui a été largement sollicité, parfois en bien, parfois moins bien. On a vu que l'usage des médias sociaux était fortement utilisé par les plus conservateurs pour essayer d'attirer avec des messages relativement simplificateurs les électeurs.
Oui, avec cette vraie campagne d'infox, hein, comme on le dit en français.
Absolument.
Et puis cette campagne, là encore, extraordinaire, avec des hologrammes pour séduire 194 millions d'électeurs. Sur les enseignements du scrutin, donc Widodo reconduit, pourquoi on a beaucoup souligner son bilan économique, hein. C'était son grand projet en 2014 d'équiper le pays avec de meilleures infrastructures, lutter contre la pauvreté. Il y avait 225 projets prioritaires qui ont été annoncés. Cependant, c'est assez lent, hein. 26 seulement achevés en mars 2018 et puis le ralentissement de la croissance quand même.
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, Djokovic représente quand même un véritable appel d'air dans les jeux politiques indonésiens traditionnels. Un appel d'air parce que finalement, c'est un peu un trublion, cet homme qui arrive du fin fond de l'île de Java, qui a été maire pendant 7 ans dans sa municipalité, puis gouverneur de Jakarta pendant 2 ans, et enfin président de la République. C'est un homme qui donc ne sort pas du sérail, mais qui est un pragmatique, c'est un chef d'entreprise, PME, et donc il est véritablement orienté, je dirais, vers l'efficacité. Et en fait, c'est cette efficacité-là qui a plu aux électeurs. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'Indonésie est un pays ingouvernable, c'est un énorme pays, on l'a dit, un archipel de 13 000 îles, c'est un pays où les pesanteurs administratives, les pesanteurs politiques, les pesanteurs sociologiques sont très lourdes, et en dépit de toutes ces difficultés, Jokowi a réussi à faire avancer certains dossiers. Alors certes, ça a été moins rapide qu'espéré, mais les niveaux d'attente étaient très importants, mais néanmoins, ça a avancé. Deux exemples, les infrastructures, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais quand vous allez à Jakarta, vous vous rendez compte vraiment de l'avant et l'après de Jokowi, des couloirs de bus qui fonctionnent, un métro, etc. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, la réforme agraire. On en parle très peu, mais c'est un point important. La réforme agraire a été entreprise dès 2017 pour légaliser 5 millions de titres juridiques, et puis on est passé à 7 millions en 2018, et on annonce 9 millions pour 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité rurale se réduit. Et ça, c'est véritablement un point important pour les Indonésiens. Donc voilà, si vous voulez, sur le terrain, des actions qui ont montré la détermination de Jokowi, qui a évidemment dans son programme insister sur la réduction des inégalités et sur une politique sociale beaucoup mieux répartie. Pas oublier que sur les 260 millions d'Indonésiens, 30 vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Alors ce qui veut dire que finalement, pour ce qui concerne Widodo, le facteur islamique, la campagne assez bigote et conservatrice justement qui avait été lancée contre lui avec un certain nombre d'accusations, n'a finalement pas joué, ou alors qu'il a eu une bonne tactique en se rapprochant justement des islamistes conservateurs, disons.
Alors, il a évidemment eu une bonne tactique. Vous savez, il avait été échaudé par cette affaire qui a eu lieu en 2016-2017, où le vice-gouverneur qui avait pris sa place en 2014, quand il avait été élu président de la République à Jakarta, qui était un Chinois catholique, a été accusé de blasphème. Voilà, la fameuse affaire Aoc avait été accusée de blasphème et a été condamnée à 2 ans de prison. Et Joko Widodo avait donc retenu, si vous voulez, la leçon et avait bien pris la mesure de ce courant conservateur qui travaille la société indonésienne. Et pour le satisfaire, il avait, à la grande surprise de tous, choisi comme colistier Maruf Amin, qui est le président du Conseil des oulémas indonésiens, c'est-à-dire l'organe qui émet les fatwas et donc a un rôle excessivement important dans l'islam indonésien. Et donc, en choisissant ce colistier-là, il avait bien montré, il avait bien signifié à cette frange plus conservatrice qu'il avait compris le message et qu'il n'allait pas s'éloigner substantiellement de cette identité musulmane, même si, et c'est un point important, Jokowi défend le Pencasila, qui est donc cette idéologie, je dirais, purement indonésienne, qui respecte l'ensemble des religions qui s'expriment en Indonésie. Vous savez que l'islam n'est pas religion d'État, en dépit du fait qu'elle est pratiquée par 88% de la population.
Et de cet islam abangan, comme on l'appelle en Indonésie. Alors juste, dernier point, ça veut dire que pour Prabowo Subianto, à l'inverse, lui qui s'était rapproché des radicaux, appuyé par deux des principaux partis islamistes, ça n'a pas fonctionné alors?
Alors, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'il le pensait. Hein. Il a véritablement, effectivement, fait le choix de s'allier avec les islamistes. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'objectif Subhanto Prabowo n'était pas de gagner obligatoirement ces élections, mais de mettre en ligne de mire son dauphin, c'est-à-dire son colistier, pour les élections de 2024 avec son parti, le Gerindra. Donc, en fait, ce qu'il va falloir suivre, c'est la trajectoire de Sandiaga Uno, hein, son colistier, actuel vice-gouverneur de Jakarta, oui, pour savoir comment celui-ci va rebondir et préparer les élections de 2024 et gêner Jokowi dans sa mise en place de la modernité indonésienne.
Et oui,
il l'avait déjà bien gêné pendant ce premier mandat.
Et à surveiller ce Sandiaga Uno, peut-être futur Widodo. Je donne juste les chiffres estimés aussi des élections législatives. 13% pour Gerindra, le parti de Prabowo, et puis 20% à peu près pour le PDIP, parti de Widodo. Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher.